Ça va et toi ?
Bah écoute, ça va. L'album, donc ton premier album, La Saison Fantôme, est sorti il y a 2 jours.
Ouais.
Juste dimanche soir, il fait froid à Paris.
Ouais. Dans le froid, dans le gris, sous les lumières artificielles.
Cette sortie, comment s'est-elle passée donc ?
Elle s'est bien passée dans le sens où voilà, c'est enfin arrivé. Parce que ça faisait longtemps que je pensais à cet album et que je travaillais dessus. Donc j'étais un peu, tu sais, tu finis par te demander si t'as pas inventé toute cette situation.
Oui.
Tu t'imagines avec une camisole dans un truc où on te dit oui, Madame Lotz, le CD, oui bien sûr votre album va sortir, c'est super. Donc je suis contente de voir que j'ai pas complètement inventé le truc et que c'est sorti, que des gens l'ont écouté. Il y a beaucoup de chroniques très intéressantes, de messages, de retours des gens que je connais ou que je connais pas. Il y a plein de choses très chouettes qui sont en train de se passer autour de cette sortie. Et je suis hyper heureuse de ces premiers retours, quoi.
Ouais, c'est justement, les retours, ils sont orientés... parce que t'as quand même beaucoup joué en live avant de... Enfin, t'as déjà sorti un premier EP, on en parlera un peu plus tard. Mais tu joues beaucoup sur différentes formations, pareil, on en parlera. Ces retours, ils sont vraiment orientés sur la volonté d'avoir un... tes morceaux disponibles chez soi, par exemple.
Ouais, c'est marrant. Alors, ils sont orientés, en tout cas pour l'instant, là, on est à J+2, mais en fait, on est à J+2 pour le grand public, entre guillemets, mais ça fait déjà quelques semaines, du coup, que quand même le lien circulait auprès des médias, voilà, notamment les médias indépendants avec qui je peux être en lien, ou mon attaché de presse, Flavie aussi, et mon label. Ils sont orientés, en fait, principalement sur 2 trucs. Il y a des retours qui concernent vachement les arrangements, en fait, et le côté très immersif que peut avoir ce disque, avec un travail vraiment de dentelle que je suis très contente de pouvoir enfin montrer, parce que c'est un travail qui a été immersif pour moi aussi. Donc tant mieux si ça plaît, parce que c'était un travail égoïste à la base, qui m'a fait du bien à moi aussi. Et effectivement, donc les retours sont orientés sur ça et sont aussi orientés sur... le côté voyage, en fait sur l'idée du trajet, le lien entre passé et présent, donc plutôt les textes,
Ouais.
C'est vraiment les deux trucs qui reviennent vachement dans là les retours qu'on m'a fait, les chroniques qui sont sorties. Donc c'est trop marrant parce que c'est pas forcément sur ça que j'aurais attendu en priorité les trucs, mais ça fait super plaisir de voir que les choses ont été reçues ainsi. Et effectivement, tu parlais du live. Je pense que ce qui est marrant et ce qui a un peu pris les gens par surprise, c'est que j'ai tellement joué, j'ai tellement fait de concerts là cette année. Je suis à la fin de l'année, je vais être à 48 concerts. Il y en a que quelques-uns qui ont été faits en groupe, mais j'ai beaucoup joué seul un peu partout. Et ça fait du bien, en fait, de découvrir et de pouvoir, moi, partager la partie studio de ma vie, qui est pas forcément la plus mise en avant sur toute l'année, parce que là, forcément, j'étais vraiment sur le live. Mais quand tu joues tout seul et que, du coup, tu travailles vraiment la veine un peu plus songwriter, folk rock, d'un truc guitare-voix. Alors après, moi, je suis une coquine du guitare-voix parce que j'ai des machines, des loopers et tout. Mais ça n'empêche que vraiment, le studio, il développe tellement un monde à part. Moi, c'est vraiment l'endroit où je peux exprimer tout un tas de choses qui, dans les formats que je défends, n'ont pour l'instant pas leur place sur scène parce que il y a beaucoup de bars à concerts, de cafés-concerts, de clubs, de caves. Et en fonction de l'écoute des gens, tu vas pas forcément te risquer. Voilà, déjà, tu vas pas te déplacer avec tout un groupe de 7 ou 8 personnes pour tout faire. Et puis, il y a des choses qui se perdraient s'il y avait pas une bonne qualité d'écoute, je pense. Et c'est très dur à avoir, parfois. Donc vraiment, ouais, le studio, il y a ce côté soulagement pour moi et découverte, je pense, pour les gens.
Oui, tu parlais de la dentelle du studio, donc ça fera l'objet d'un deuxième épisode qui va être publié d'ici quelques semaines, je pense, enfin, quelques jours. Et ce qu'on vient de l'enregistrer, et on va décortiquer donc le travail que tu as mené avec Clément en studio sur Grenat. Mais je voulais surtout qu'on parle un petit peu de toi. Donc comment est-ce que tu as commencé la musique et par quel instrument ?
Alors moi, j'ai commencé la musique quand j'étais enfant, par le biais du piano classique. Il se trouve que la mère de mon père, donc ma grand-mère, est organiste, pianiste. Elle a appris le piano pendant la guerre avec une prof allemande, puisqu'elle est alsacienne, du coup, ma grand-mère. Et en fait, c'est vraiment un truc qui fait partie de l'ADN de ma famille, j'ai l'impression. Mon père joue aussi un petit peu de piano. Et c'est vrai que c'est un instrument qui m'a bien plu quand j'étais petite. Il se trouve qu'il y avait une école de musique dans la commune où j'ai grandi, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et du coup, j'ai pris des cours de solfège le temps que la liste d'attente pour les instruments se libère un petit peu. Donc j'ai commencé par le solfège, qui était la partie la plus ingrate, la plus ingrate de l'apprentissage. Et puis à ma rentrée en CE1, du coup, j'ai fait du piano jusqu'à mon bac. Donc j'en ai fait pendant une grosse dizaine d'années. Et il y a plein de choses que j'ai gardées de cette époque-là, notamment la découverte, en fait, avec... J'avais une prof géniale, Anne-Marie Hanquin, elle s'appelle. Une prof qui a vraiment changé plein de choses dans ma façon de voir la musique, parce que à la fois, elle faisait un peu du populisme en me proposant des trucs un peu goth quand j'étais adolescente. Elle avait bien compris que je préférais les compositeurs romantiques et tourmentés. Donc elle m'a mis plein de Beethoven et plein de Chopin, plein de Schubert dans les pattes. Et en même temps... Elle m'a aussi mise au contact d'une certaine idée un peu souple et cool, mais de la discipline de manière générale. Et en fait, il n'y a pas forcément... Enfin, disons que la notion de talent, elle est très relative. Il y a souvent beaucoup de travail, en fait, derrière la personne qui fait de la musique. Voilà, c'est ça. Donc je pense que, évidemment, qu'il y a peut-être des gens qui sont plus dotés que d'autres. Mais le fait de prendre des cours et le fait d'avoir vraiment d'être constamment entouré de gens qui étaient excellents dans leur domaine, en fait, parce que quand on fait du piano au conservatoire, on fait des auditions, des concours, on passe des examens, etc. Donc en fait, c'était marrant, en fait, cette époque où quand t'es enfant, t'es ado, t'es en construction, et en fait, même dans quelque chose d'artistique, t'es quand même ramené à cette espèce de truc ultra pragmatique des notes. Et donc c'était marrant, je trouve que ça rend humble d'un certain côté. Après, il y a plein de trucs dans le système qui sont probablement pas ultra judicieux, peut-être pour les gamins. Après, ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là. Et parallèlement à ça, quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé la basse. Et j'ai fait de la basse dans des groupes un peu plus de musique saturée. On faisait des reprises de System of a Down et Metallica notamment, et puis quelques compositions dispensables. qui n'ont pas survécu à l'époque MySpace pour la plupart. Et puis après, quand c'est vraiment quand j'étais au lycée où je piquais un peu les guitares folk de mon père pour commencer la guitare en autodidacte aussi, du coup. Donc, voilà.
Oh, mais avec une grosse base de solfège.
Avec une base de solfège et en même temps en essayant vraiment.
Plus que des bases, quoi.
Oui, puis mais je pense quand même qu'il y a un truc de déconstruction. Enfin, moi, j'ai pas du tout abordé la guitare comme un instrument classique. Et au contraire, j'étais un peu soulagée de pouvoir aller vers quelque chose d'un peu... j'aime pas le mot de déconstruction, forcément, mais je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi dans la façon d'aborder l'écriture de chansons. Parce qu'en fait, j'ai fait de la guitare pour écrire des chansons.
Oui.
C'est pas du tout un instrument que j'ai abordé comme soliste, par exemple, tu vois. C'est pour ça que je parle d'autodidacte, parce que j'avais des bases, je sais lire des notes et des partitions et tout, mais ça m'a pas... Je sais pas dans quelle mesure ça m'a servi après pour écrire. Je pense que ça a forcément laissé une empreinte, le fait de savoir lire et de savoir un peu comment se passent les coulisses des choses. Mais au final, j'avais pas non plus... Franchement, j'avais pas un niveau de dingue en tant que musicienne classique, parce que ça s'est vraiment arrêté à des années où ça restait quand même très amateur. Après, c'est chouette de pouvoir jouer des morceaux classiques. Il y a plein de trucs que je joue encore quand j'ai un piano, tu vois, et ça me fait très plaisir, mais j'étais pas du tout dans un niveau, tu vois, de CNSM ou de trucs très poussés. Donc finalement, j'ai pas non plus eu tant de trucs que ça à déconstruire quand j'ai commencé à faire mes morceaux à la guitare, quoi.
Et donc, comment t'as lancé ce projet, donc Bleu Rennes, et comment est-ce que tu es arrivé à ce premier EP, donc Élémentaire? Tu l'as sorti en janvier 2019,
c'est ça, ouais. En fait, Bleu Rennes, ça a commencé en 2018. Donc, ça faisait quelques mois que les choses s'étaient finies avec mon ancien groupe Diamond Bleach. Et en fait... voilà, ça a été une fin de groupe un petit peu compliquée, un peu particulière pour plein de raisons. Et moi, j'étais vraiment dans ce début d'année 2018, j'étais en train de chercher la suite, comment tirer le meilleur profit. Je me disais, bon, j'ai un peu peut-être fait une fuite en avant, dans quelle mesure est-ce que je peux reconstruire un truc que j'aurais peut-être pu améliorer. Enfin voilà, j'étais dans plein de questionnements. Et en fait, j'avais commencé à écrire en français, parce que jusqu'à présent, j'écrivais en anglais. Et puis, j'ai mis très longtemps même à chanter. Enfin, j'ai vraiment, très progressivement, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la basse, puis après de la basse et des chœurs, puis après de la guitare et des chœurs, et puis après seulement guitare et voix lead. Mmh. Donc, j'ai tardé à écrire et à chanter en tant que chanteuse, du coup. Et en même temps, en 2018, c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire que je voulais écrire en français. C'était un truc qui m'avait vachement manqué. Et puis, je trouvais pas forcément le bon angle. Je voulais pas non plus faire... c'est horrible parce que j'aime bien en plus ce qu'ils font, mais je voulais pas faire du Aston Villa, entre guillemets, dans la mesure où moi, j'avais vachement grandi au contact de groupes comme ça. Et en même temps, je me disais, c'est toute une époque, tu vois, c'est les années 2000 et tout. Moi, quand j'étais ado, mon père écoutait ça et tout ça, les trucs de rock français, Luc et tout, tu vois. Mm-hmm. Mais en même temps, il me manquait un peu de culture alternative francophone.
Ouais.
Et c'est quand j'ai commencé à découvrir tout ça que j'ai voulu, que ça m'a rassuré pour écrire en français. Donc, Dominica, par exemple, qui était vraiment un songwriter, on va dire en anglais, super, super structurant pour moi quand j'ai lancé mon projet, notamment. Et en fait, là-dessus, moi, je continuais à faire quelques petits concerts, notamment des concerts de reprise, et il se trouve que à l'une de ces occasions, j'ai fait un concert de reprise de Queens of the Stone Age, et j'étais la seule fille d'ailleurs à ce truc, enfin en plus j'étais en solo, enfin j'étais vraiment
solo
une espèce de...
Oui,
non, j'étais en guitare-voix, j'avais même pas de pédale à l'époque, c'était vraiment c'était du proto Bleu Rennes, et j'avais ma grosse Gibson, et j'avais beaucoup de motivation, mais je sais pas si le set était très très bon, mais en tout cas j'avais vraiment envie de défendre ça, et il y avait une espèce de côté, je pense, desert rock, mais hyper acoustique. Et du coup, il se trouve qu'à ce concert-là, donc au Supersonic, pour ne pas le nommer, il y avait Vangelis, la personne qui a monté le label sur lequel je suis signée, qui était présent dans la salle ce soir-là, et qui m'a retrouvé sur Facebook le lendemain pour m'envoyer un message et me proposer qu'on s'appelle, qu'on se voit pour éventuellement bosser ensemble, parce qu'il lançait son label. Et moi, au début, j'étais un peu là en mode oui, le classique. J'étais vraiment dans un truc hyper méfiant, qui n'a pas duré très longtemps, parce que très très vite on s'est appelé, puis on s'est vu pour en parler plus longuement. Et en fait, il m'a dit qu'il avait senti un truc dans, il avait eu un instant sur ce concert-là. Pourtant, c'était pas des chansons à moi, mais j'avais beaucoup réécrit des trucs, tu vois. Je m'étais réapproprié des chansons en groupe pour en faire un truc intéressant.
T'avais pas le choix, de toute façon, si tu viens en guitare-voix jouer du Queen of the Stone Age.
Exactement. Et en fait, il m'a dit, mais t'as des démos, t'as des trucs de ce que tu fais en ce moment. Je fais, bah là, je suis un peu entre deux chaises, mais j'ai des trucs, enfin, j'ai des moutures, quoi, de chansons, guitare-voix en français. Et en fait, je lui ai envoyé, je crois, des démos de téléphone, tu vois, enfin, des mémos vocaux. Et il m'a dit, bon, écoute, c'est le tout début, mais vas-y, tu sais quoi, on y va. Et en fait, on a signé, juste vraiment très peu de temps après. Et il fallait un nom, et du coup, moi j'étais là, moi, je me sentais pas, tu vois, d'être sous mon nom civil, donc Léa Lotz, parce que je me disais que là pour l'instant j'étais seule, mais que je voyais bien aussi le truc peut-être devenir autre chose, ou j'ai toujours beaucoup écouté des groupes qui fonctionnent un peu par bande, plus que par line-up fixe, et notamment Queen of the Stone Age, enfin en fait plus précisément les Desert Sessions, qui sont des espèces d'enregistrements de potes, voilà, dans des trucs un peu de jam et d'improvisation. Je me suis dit, bon, Bleu Rennes, ça me permettrait au moins de pouvoir dissimuler un peu différents formats sous ce truc-là.
D'avoir une géométrie variable autour d'un projet.
Ouais, exactement. Et du coup, voilà, j'avais fait une espèce de shortlist avec des trucs en rapport avec les couleurs et puis en rapport avec des trucs qui pouvaient être un peu historique entre guillemets, parce que j'aimais bien cette espèce de côté un peu médiévaliste. Voilà. Et du coup, c'est Bleu Rennes qui est resté, puis voilà. Ça a commencé comme ça. Et l'EP, il s'est fait très vite dans la foulée, avec des moyens financiers et humains pas toujours bien intelligemment déployés en ce qui concernait le label et moi, parce qu'on connaissait pas vraiment les choses. On a fait un peu comme on pensait être bien. Il se trouve que ça a été un petit peu... la production de cette EP a été un peu une épopée, compliquée. Ouais, ça a été... J'ai beaucoup d'estime et de reconnaissance pour les gens qui ont bien voulu se libérer pour travailler dessus, parce que ça a été difficile pour tout le monde, je pense. Ça donne un résultat qui est très perfectible et avec pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, parce que maintenant j'ai l'impression d'être vraiment une autre personne que celle qui a fait ce disque. En tout cas, voilà, c'est comme ça que les choses sont arrivées. En fait, 3 mois après la signature, après notre rencontre, il y a ce single, Les yeux fermés, qui est sorti en juillet. L'EP a été enregistré entre juillet et octobre. Il a été mixé et il est sorti en vinyle en fin janvier, tu vois. Ça s'est fait très vite, quoi.
J'avais retrouvé quand même quelques points de repère donc sur cette EP. Tu vas me dire si je suis dans le vrai ou pas. J'ai trouvé sur Loin des Lions des guitares assez proches de celles de PJ Harvey, surtout au niveau des rythmiques.
C'est vrai, en fait, c'est un morceau... Il y a pas mal d'arrangements de guitare de ce morceau qui sont des petits accidents heureux de studio. Des trucs où, en fait, tu restes un peu tard, t'es un peu fatigué, du coup, tu rentres dans une espèce d'état second parce qu'il faut finir le truc et que t'es déjà à la bourre et tout. Et il y a la guitare qui est autour du riff principal, qui est un peu en arpège dans les graves. Celle-ci, elle m'est vraiment venue, genre, je crois, vers 2h du matin dans un studio. Et comme on le louait, le studio où on a fait la plupart des guitares et des voix, il fallait vraiment qu'on ait fini un max de trucs avant le dimanche soir, et ça c'était dans la nuit du samedi au dimanche. Donc voilà, il y a une partie des arrangements qui est venue là. Et le riff de base, en fait, il a une histoire marrante, c'est que j'ai fait mon premier showcase en tant que Bleu Rennes dans un endroit qui s'appelle le Motel à Paris, et que j'embrasse d'ailleurs. Et en juillet du coup 2018, il y avait qu'un morceau qui était enregistré et qui n'était pas encore sorti. Et globalement, les guitares voix que j'avais sur cette EP, ils étaient quand même assez folk, assez chanson. Et je m'étais dit, mais il faut absolument que j'aie un morceau rock pour que les gens comprennent que je viens de ça et que j'écoute du rock et que moi aussi, je sais faire du rock. Et puis, j'étais en grande réflexion à J-2, même J-1 du concert, en disant, il faut absolument que j'écrive un truc qui va être un morceau rock. Et en fait, j'ai écrit Loin des Lions, vraiment presque sur une espèce de logique d'exercice de style. Et donc, avec cette espèce de trame un peu blues, presque, qui effectivement peut faire penser à PJ Harvey, que j'adore et que j'ai toujours beaucoup écouté, ouais.
Eh bien, on va passer quand même à la saison fantôme. Ce qui m'a tout de suite attiré, c'est le côté multifacette. Et justement, il y a beaucoup de pistes que tu explores. Alors pour être plus clair, j'ai retrouvé des morceaux comme Un visage sur un nom, qui contient plusieurs séquences différentes, mais aussi des morceaux plus épurés, par exemple Loki d'or. Est-ce que c'est lié au projet d'écriture dont t'as parlé, Sans d'encre ?
Ouais, je pense, parce que Sans d'encre, j'ai eu cette conscience-là vraiment quand je faisais le projet en plus. Je pense que ça a vraiment été le chaînon manquant entre l'EP et l'album.
Oui.
Dans la mesure où j'avais beaucoup été entourée au moment de la production de l'EP, pas forcément de la bonne manière, pas forcément sur les bons aspects du disque. Et du coup, j'avais un peu les moments de solitude, je les avais un peu subis, parce que justement, c'était des moments où j'étais pas aidée sur les bons trucs.
Mmh.
Et les moments où j'aurais bien aimé être un peu plus libre de mes choix, c'est des moments où il fallait que je travaille avec des gens, parce que je savais pas forcément faire les choses. Notamment ma prise de son, ouais. Faire des tests, des maquettes, j'avais jamais rien maquetté en fait. Et je pense que dans la lignée de ces espèces de frustrations qui est vachement liée, qui en tout cas à l'époque était vachement liée à l'EP élémentaire, l'arrivée en fait de ce projet-là Sans d'encre, qui m'est venu comme une espèce de truc un peu ludique, comme plein de gens pendant le confinement, voilà, il y en a qui faisaient du pain, moi je faisais ça, et c'était pas forcément plus ambitieux, enfin c'était juste un truc qui me permettait de cadrer un petit peu, de pas juste faire du crin-crin chez moi sans but pendant 2 mois, tu vois, parce que j'étais vraiment confiné dans un très très petit lieu. C'était pas une partie de plaisir, le confinement, pour moi. Mais il y a eu ça qui est arrivé. Et comme entre-temps, depuis la production de l'EP, j'avais donc cette tablette, un iPad avec GarageBand dessus, ça m'intéressait vachement d'explorer un peu cet outil. Alors après, c'était donc en qualité très très modeste, mais avec un principe de sortir du guitare-voix pour écrire différemment, écrire à partir d'un clavier, écrire à partir d'une boîte à rythme, tester différents chœurs, en fait pour faire tout le travail de maquette que j'avais pas eu l'occasion de faire avant. Et je pense que ce truc-là, quand c'est arrivé, ça a été vraiment la toute première pierre vers une relative autonomie de production. Parce que maintenant, voilà, je fais des choses plus proprement sur des vrais logiciels avec des vrais instruments, des vrais micros et tout. Mais à ce moment-là, je découvrais totalement l'univers des maquettes et de la prod.
De la pré-prod.
Ouais. Et ça m'a vraiment, ça a été vraiment le déclic où je me suis dit putain, mais en fait, on a le droit de concilier différents aspects musicaux. J'ai le droit de mettre du banjo avec des trucs hyper électroniques derrière. Et en fait, les choses sont pas. Sont pas si binaires qu'elles le paraissent, et on peut très bien mélanger ces influences archi-folk avec des trucs un peu plus voilà, électroniques, voire même un peu post-rock, avec il y a déjà pas mal de guitares très très saturées dans Sans d'encre.
T'as mis de la porosité sur tes
ouais, exactement.
Différentes...
Ouais. Et c'est vrai que ça a vraiment été un truc qui m'a autorisé à faire sonner les morceaux de l'album, certains vraiment totalement dans la lignée de ce truc-là. Ceux que t'as cités, Loki d'or et Un visage sur un nom en font partie, parce que d'ailleurs on avait même arrêté à un moment donné de les jouer à la suite en concert, parce qu'ils ont un peu des structures similaires dans le sens où il y a cette espèce de gros outro avec un truc un peu plus free quoi à la fin, presque un peu plus prog, et ouais, le travail à la fois de l'écriture et de la palette de son sur ces deux morceaux là il a vachement découlé de Sans d'encre.
D'un point de vue plus global, quelles sont les thématiques que tu abordes au fil de l'album ?
Je pense que c'est un album qui parle des passerelles entre le passé et le futur, qui évite soigneusement le présent. Je pense qu'il y a quand même il y a un ADN très romantique, voire romanesque dans ma musique, dans mon écriture. Voilà, des espèces de tracés, de lignes très imaginaires, avec un univers presque un peu de conte pour enfants ou pour adultes, après peu importe, mais en tout cas il y a quand même ce truc-là de fiction, de contes de fées, de contes de sorcières. Donc il y a quand même, ça c'est un cadre, on va dire, mais qui me permet aussi d'aborder des thèmes de manière toujours détournée et souterraine, parce que je suis quelqu'un de, certes, bavard, mais de très pudique. C'est un album qui parle de dépression, c'est un album qui parle de solitude aussi, de comment être seul avec soi-même et accepter ça, et dans quelle mesure le rechercher aussi pour se sentir bien, voilà, pour que la solitude soit pas un truc qui soit subi, mais qui soit accepté et qui soit bénéfique. Et je pense que les 3 ans de cycle de travail sur la saison fantôme, ils sont très très connectés à un travail que j'ai fait sur moi aussi. Et en fait, la recherche d'identité musicale, elle est très très calquée sur la recherche d'identité tout court que j'ai pu mettre en place moi. Ouais, ouais. Alors après, je pense que c'est un truc qui se termine vraiment jamais, tu vois. On se cherche potentiellement toute la vie, mais avec un peu plus d'apaisement quand même maintenant qu'il y a 3 ans. Parce qu'il s'est passé plein de trucs et que voilà, mais en tout cas ouais, c'est un album qui parle vachement de ça et de dans quoi est-ce que je trouve de l'effroi et dans quoi est-ce que je trouve des refuges, quoi. Et puis je pense que même par son titre, c'est un disque voilà qui cherche aussi à jouer sur cette espèce de d'oscillation entre cacher des choses, montrer des choses, ne pas forcément aller vers des choses évidentes.
Être pas nécessairement explicite.
Ouais.
Mais.
Ouais, parce que. Je pense qu'il y a une. C'est horrible parce que j'ai l'impression que je vais dire une phrase de grosse réac alors que je suis pas du tout quelqu'un de réac, je crois. Mais je pense que l'époque et son côté très frontal, très explicite, justement, dans. Il y a plein de sujets de société qui méritaient d'être abordés de manière plus ouverte et plus frontale. Donc, tant mieux qu'on vive cette époque-là aussi. Mais je pense que il peut y avoir une brutalité ou une laideur qui, moi, me plaît pas forcément dans les choses frontales. Je dis pas que je les évite dans ma musique, mais disons que je les aime bien quand elles sont mises en relation avec des choses qui sont pas forcément frontales. Genre tu vois Un visage sur un nom, par exemple, c'est une chanson, il y a plein de gens qui pensent que c'est un truc qui parle d'un gars. J'ai parfois l'impression d'en avoir après toi, etc., sur les paroles du refrain. En fait, c'est une chanson qui parle du rapport à son corps. Et je pense qu'il y a plein de filles, plein de femmes qui peuvent potentiellement se reconnaître, par exemple, dans ce genre de texte, tu vois, quand tu sais quel est le sous-texte. Donc c'est pour ça que je l'explique là frontalement au micro, mais voilà, le rapport hyper compliqué qu'on peut avoir avec son corps quand on est une femme, c'est des fois on a envie de le détester, ce corps. On sait pas très bien ce qu'on doit faire avec lui. On peut être frustré qu'il soit la première porte d'entrée quand quelqu'un nous rencontre, parce que on aimerait bien des fois que notre corps corresponde plus à la personne qu'on a envie d'être et qu'on pense être à l'intérieur. Donc c'est une chanson qui parle beaucoup de ça, que j'ai écrite il y a trois ans. Et donc ça, tu vois, je me serais pas du tout sentie légitime, ou en tout cas j'aurais pas eu les compétences ou le talent pour en parler de manière frontale, parce que je pense que c'est pas comme ça que moi j'ai envie de dire les choses et que d'autres le font déjà très bien. Et voilà, moi je suis plus partisane d'être dans les images, dans les analogies, dans les détours, quoi. Voilà.
Tu sais, je crois que l'on se bat pour un lieu où parler tout bas, une île où n'entrent plus les monstres, pour un hasard, pour ce ton regard fier, mon ventre à terre, ces figures qui s'écartent pour nous laisser le temps d'un rêve absent. Thank you.
voulais qu'on en parle justement de un visage sur un nom à qui laisse une large place à des arrangements. Donc moi j'ai trouvé très dense. Parfois la voix est vraiment soutenue par une discrète batterie. Et il y a un pont justement qui est très axé guitare, donc on retrouve vraiment le séquencement que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est le genre de morceau qui interpelle à l'écoute, enfin qui m'a interpellé à la première écoute, et qui justement rappelle à l'écouter plusieurs fois pour essayer de gratter les différentes couches de vernis. Donc comment est-ce que toi tu... Enfin, déjà, est-ce que l'articulation de ces phases... Elle vient naturellement, ou est-ce que c'est un travail que tu fais au fil du temps autour du morceau ?
C'est un travail que je fais plutôt au fil du temps. En fait, j'ai envie de te répondre les deux, parce que je pense que la façon dont j'ai arrangé le disque, elle vient aussi beaucoup de mes réflexes de live. Et en fait, il se trouve que cette année, vraiment, en 2023, j'ai commencé à mettre en place de manière systématique, des improvisations à la fin de chaque concert.
Ah, d'accord.
Donc en fait, comme j'ai été dotée d'une pédale looper il y a quelques années, c'est un outil que j'utilise beaucoup quand je suis en solo. Et en fait, ça me permet de construire vraiment des paysages et de voir en direct où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'emmener les gens, où est-ce que peut-être les gens ont envie d'être emmenés aussi, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est vraiment les impros de fin de concert, elles ont été vraiment l'occasion de travailler encore plus cette espèce de méthode d'empilement, d'entremêler en fait différentes lignes de guitare, parce que je fais des concerts, quand je suis en solo, j'ai que la guitare. Et je pense que ça, c'est...
T'es toujours en guitare acoustique, justement ?
Non. Alors, toi, tu m'as vu dans une config un peu spéciale, parce que c'est très rare que je joue avec ma guitare folk. Cette logique, enfin, disons que cet amour que j'ai pour les choses un peu hypnotiques, répétitives, la musique un peu comme ça, de boucle, de construction par accumulation.
L'empilement.
C'est un truc qui fait partie de mon écriture, je pense, en tout cas pour l'instant, que j'ai pas forcément cherché à beaucoup combattre sur l'album, qui se retrouve beaucoup dans les arrangements. Après, il y a des morceaux où ça se sent plus que d'autres. Un visage sur un nom en fait partie. Et disons que je prends vraiment un plaisir un peu... j'ai un très grand appétit pour les arrangements. J'essaie de pas aller trop loin dans l'arrangement et de pas surrajouter des trucs, tu vois. Mais j'aime bien sentir qu'il y a une espèce de map monde de chaque chanson. Ouais. Comme, tu vois, quand tu regardes un film qui te plaît, t'aimes bien aller sur Wikipédia pour voir qui sont les acteurs, est-ce que c'est tiré d'un livre, est-ce qu'il y a des interviews, machin. Et en fait, j'ai un peu fait des chansons comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que t'as envie d'aller voir ou de découvrir au fur et à mesure des écoutes. Et il y a un petit monde par chanson, je pense, de cette logique-là.
Bah oui, le petit monde par chanson, on le retrouve quand même assez nettement. Et je voulais parler en premier lieu de ta voix, donc qui est souvent très en équilibre entre une justesse donc très franche sur Belle qui tient ma vie, par exemple, je la trouve très 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 franche, c'est un petit peu le ce qui la caractérise. Il y a beaucoup de prises de risque dans les mélodies aussi, je trouve. Et j'ai retrouvé aussi pas mal d'émotions dans le flux. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles? Puisque, comme tu le disais, t'as commencé plutôt par les instruments. Donc, comment est-ce que t'as travaillé cette voix?
Ouais, alors, je pense que la voix, c'est clairement... J'ai pas envie de dire mon talon d'Achille, parce que on va pas être dans les trucs négatifs. Ouais. Mais par contre, c'est pas forcément la priorité, très paradoxalement, pour moi. Et ça va tendre, ça va le devenir plus, parce que j'ai besoin de la travailler pour plein de raisons. Mais disons que sur le disque, il y a un travail particulier sur l'écriture des mélodies, des voix. Alors en fait, je pense que là, comme ça, en parlant avec toi, ça m'y fait penser. Je pense que l'écriture... La plupart des morceaux du disque ont été écrits à un moment où je faisais peu de concerts.
Ouais.
Parce que c'était au moment du Covid et de l'après-Covid. Et même même ce qui a suivi l'EP, j'avais très peu joué en 2019. Donc voilà. Et les concerts ont vraiment commencé une fois que les chansons étaient déjà écrites. Et je pense que j'ai pas forcément écrit des mélodies qui étaient idéalement faites pour ma voix. Et du coup, je pense que c'est ça dont tu parles aussi quand il y a une espèce de jeu d'équilibriste parfois. sur certains trucs.
Ouais, les prises de risque ouais. mélodiques, c'est ça. Parce que quand, ouais. moi, quand j'ai écouté, je dis à certains moments, quand même, la mélodie, elle bouge beaucoup. Et c'est assez atypique de voir, de voir ce, ouais, ces prises de risque.
Ouais, ouais, bah, en fait, c'est. Après, je me reconnais pas. Enfin, j'écoute pas forcément beaucoup de groupes et d'artistes qui vont être dans la performance vocale. Très spectaculaire. Ouais. Enfin là, j'ai pas, en tout cas, j'en ai pas qui me viennent comme ça. Je suis plus touchée de manière voilà assez instinctive par des gens qui vont parfois techniquement mal chanter, mais qui vont raconter des trucs qui me touchent. Je prends un exemple qui est hyper hyper naze, mais qui me vient comme ça. C'est par exemple mon père écoute beaucoup Renaud.
Ouais.
Et genre, je sais que bon, Renaud c'est pas un très bon c'est pas un bon chanteur, tu vois. Encore moins maintenant, le pauvre. Mais c'est vraiment c'est un exemple parfait pour moi de bah voilà en fait il y a un moment en fait quand on écrit des chansons qui sont archi personnelles la seule personne qui peut les chanter c'est nous tu vois donc je me dis que j'ai beaucoup de mal à me considérer comme chanteuse il y a même un truc qui me faisait trop rire au début c'est surtout sur l'EP là moins sur l'album mais parce qu'il y a plus de richesse aussi je pense mais au début il y avait des articles qui me présentaient Bleurel la jeune chanteuse et j'étais en mode putain enfin en fait, ça me frustrait parce que moi, je viens vraiment de l'instrument, plutôt de la guitare ou de la basse. Donc, que quelqu'un me dise la jeune chanteuse, je trouvais que presque ça me dépossédait de ouais, mes compétences instrumentistes.
Alors que, ouais, sous l'angle qui te collait pas, quoi.
Ouais, en tout cas, pour moi, qui me met le moins en valeur, je pense, parce que si tu veux, il y a des gens qui vont avoir une voix très belle, très. Qui peut marquer etc mais et quand tu les sors de leur propre répertoire la voix continuera à avoir du sens il ouais, y a plein de gens comme ça moi je pense que pour le coup si tu sors ma voix de son répertoire en fait elle est pas du tout passe-partout c'est pas du tout une voix technique c'est une voix de narration
oui.
plus qu'une voix de musique
scandé,
en fait ouais
oui.
voilà tu vois
ouais.
donc ouais ça répond à ta question.
Si, si, mais bah, ça explique au moins bah, la spécificité que tu as trouvée sur ta voix, parce que c'est quand même bah, quand tu es artiste, comme tu dis, tu viens d'un instrument, et quand tu prends la décision aussi de porter la voix de ton projet, c'est bah, faut que tu trouves là où tu te sens bien, quoi.
Ouais. Bah après, je pense que je me suis créé un relatif confort vocal avec le temps.
Ouais.
Donc je vais moins aller vers des choses qui me mettent en danger absolu, tu vois. Mais par contre, ouais, je pense que je suis encore en train d'apprendre à maîtriser ma voix, à la connaître et à la travailler, que ce soit en live ou en studio, quoi.
Et justement, le fait d'avoir repris un rythme de concert soutenu, est-ce que ça te... Comment dire ? Est-ce que tu t'es rendu compte que c'était... trop difficile ou trop difficile ouais, trop difficile de le reproduire de manière répétée justement
ouais enfin oui et non après je pense que de manière générale c'est le live qui a beaucoup forgé ce disque aussi parce que le live en le solo a créé la frustration des arrangements donc en fait de base l'aspect final de l'album il découle aussi je pense de ce truc là mais pour finir sur la part enfin en tout cas pour continuer sur la partie vocale de ta question ouais le live je pense qu'il y a des choses que tu peux côté spectateur que tu peux excuser ou accepter dans un live parce que t'as quelqu'un en face de toi qui est en train de se mettre à nu et de prendre un risque et de se produire. En plus, quand c'est un artiste solo, c'est encore un autre degré de d'écoute et de en ce qui concerne le risque, etc. Mais je pense que derrière la entre guillemets bonne excuse du live et de chanter des choses de manière imparfaite parce que c'est du live, il y a quand même aussi une vraie conscience du chemin que j'ai encore à faire pour être totalement satisfaite de ça et en même temps je pense que je vais devoir quand même tâcher de viser juste je suis pas du tout partisane de tout doit être un diamant brut le travail va dénaturer la perfection du premier jet moi je crois pas du tout à ça je pense que il faut être sacrément il faut avoir un ego un peu boursouflé pour penser que les choses ne se travaillent pas et que tout ce qui nous est donné à la naissance suffit. Donc je suis plutôt dans l'équipe dans la team travail en ce qui concerne la musique mais je pense que la voix À la fois, c'est une de mes particularités actuellement et à la fois, c'est un de mes prochains chantiers qui va m'occuper en 2024.
Chantier
et,
2024, là,
et ouais. Et c'est ça, voilà. Ouais.
Je voulais parler du live, donc tu as deux configurations, une en guitare-voix et une autre en groupe. Donc, comment tu travailles ces deux approches?
Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que y a... j'ai un peu, avec le temps... travailler presque une voix pour les configurations groupe et une voix pour les configurations solo, parce que de fait les endroits où je peux me permettre de jouer en solo en termes de setup, d'écoute, etc., c'est des endroits qui vont être fatalement un petit peu plus calmes en général, avec des gens qui sont plus attentifs, qui sont... Enfin, ça va être moins dans les clubs, ou alors dans les clubs, mais où les gens sont
ils savent
ont envie
viennent,
de
ouais.
se mettre dans cette dans cette atmosphère-là.
État d'esprit, ouais.
Exactement. Moi, j'aime bien chanter dans les graves. J'aime bien aller vers des choses un petit peu plus, peut-être pas chuchoter, mais vraiment d'être sur un fil, etc. Et donc, je pense que j'ai plus de variations, de nuances en solo. Pour cette raison-là, aussi parce que ça me permet une liberté de structure. Si j'ai envie de m'attarder sur des passages, de faire durer la guitare plus longtemps, de faire des plus grosses outro de chansons, le live va vraiment me permettre ça, également pour la partie improvisation. Et en même temps, le full band, donc le groupe complet, ça me permet de vraiment d'être plus proche de ce que je fais en studio, dans la mesure où on retrouve quand même une palette qui est beaucoup plus exhaustive, avec notamment l'apport de Clément au clavier, le jeu de batterie de Vincent Crider qui nous accompagne, et de Lou Maréchal à la basse, qui tous les deux ont des excellents instrumentistes et qui sont à la fois un très bon soutien rythmique et en même temps qui vont aller chercher des jeux très joueurs, très espiègles sur certains trucs. Donc, il y a vraiment un univers qui... Il y a un nouveau monde qui arrive avec le live en groupe, qui est un peu comme dans la même famille que l'album, un petit peu différent. Et il y a vraiment trois angles, je pense. Il y a le studio, le live en groupe et le live solo. Et c'est vraiment les trois... Je pense que c'est les trois morceaux d'un même truc, mais que c'est quand même trois projets, enfin trois propositions à part entière.
C'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fonction de, enfin la chanson reste entre guillemets la même, mais elle va avoir des approches différentes qui sont pas radicalement différentes, mais on va retrouver des choses sur. Alors je t'ai jamais vu encore en concert complet, mais déjà. Quand on voit que les morceaux du disque, qui, comme tu disais, a beaucoup d'arrangements, bah, tiennent la route en guitare-voix avec quand même un looper. C'est un travail qu'il faut maîtriser cet outil pour pouvoir l'utiliser. Et ça amène quand même déjà un deuxième angle très très intéressant. Quoi.
Ouais, après, je pense que je me dis, enfin, j'aime bien me dire que les chansons, elles sont figées que sur le studio,
oui,
en fait.
Oui,
et
oui.
Quelque part. Tu vois, au même titre qu'on peut, moi ça m'arrive pas pour l'instant, mais ça m'est déjà arrivé avec d'autres chansons, de se lasser de ses propres chansons, et en même temps, et donc t'as ce truc un peu, tu te dis, bah qu'est-ce que je fais, je continue à la jouer, en même temps, je peux la voir cette chanson, elle me saoule, et je pense que ça, il existe une espèce de troisième voie entre je continue à la faire dans la douleur et je la mets à la poubelle, c'est de faire un peu des covers de soi-même, quoi.
Ouais.
Et j'aime bien croire que j'aime bien me dire que les chansons peuvent avoir plusieurs vies et se réinventer en fonction des formats. Et comme pas parce que tu vas acheter un vêtement qui te plaît que tu vas porter que ce vêtement-là, des fois t'as envie d'être un peu plus sapé, même si c'est juste pour aller au marché, bah t'as envie de mettre une belle veste. Puis des fois t'as envie d'aller, tu dois aller faire un rendez-vous et t'as mal à la vie, t'as la flemme, et tu vas mettre un gros jogging. C'est un peu, je pense que les chansons, elles sont comme nous, elles ont une vie propre, elles ont des humeurs, elles nécessitent différents habits.
On va parler des jus live et des prochaines échéances. Donc il y a eu un showcase la semaine dernière. Quelles vont être les prochaines dates, les dates en Suisse?
Ouais, les prochaines dates. La prochaine date, ça va être une date à Metz, au Trinitaire, en première partie de Silly Boy Blue, le 14 décembre. Et après quoi, moi, je vais partir effectivement en solo pour des dates en Suisse avec un groupe qui s'appelle Corinora, et qui m'a invité à faire leur première partie sur 3 dates, à Saint-Gallen, à Bâle et à Genève, les 15, 16, 17 décembre. Et ensuite, il va y avoir un break en janvier qui permettra de travailler justement le live en groupe, qui pour l'instant est un peu en stand-by parce qu'on était sur la sortie d'album du coup. Et puis la grosse, grosse date, mais le temps que l'émission sorte, elle sera déjà annoncée. Oui. La prochaine date pour laquelle je suis très, très impatiente, c'est le point éphémère du 13 mars. Et ça, ça va vraiment être une belle fête avec l'album qui sera officiellement fêté en grande pompe à Paris. Et avec des guests, des super premières parties dont je suis très très fière. Et puis et aussi une date à Caen dans la foulée de ça, au Portobello. Et voilà, la tournée est encore en construction, et je pense qu'il y aura des dates aussi en Europe de l'Est à partir de juillet, mais pour l'instant je peux pas le certifier à 100%, mais c'est en cours. Voilà.
Je voulais clore l'épisode sur Automne Orange, que je trouve très douce. Qu'est-ce que tu évoques dans cette chanson? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette construction? Donc, boîte à rythme, la guitare est très lointaine, la voix aussi. Je la devine un peu lointaine du micro. Est-ce que c'est bon ou pas?
Ouais, t'as totalement vu juste. C'est une chanson qui est vraiment une espèce de petit nuage joufflu qui passe comme ça sur la fin de l'album. C'est une chanson... une chanson qui est sans prétention. Je dis pas que les autres sont prétentieuses, mais en tout cas celle-ci, elle est vraiment, je la trouve assez humble dans sa production, même s'il y a un gros travail qui a été fait pour que tout ça sonne. Mais c'est un morceau qui est pas mal influencé par Beach House, des choses comme ça. J'ai pas forcément pensé à ça moi-même. C'est une amie, Léa Jacta-Est, pour le pas la nommer, qui m'a fait cette réflexion que j'ai trouvé assez juste. Une chanson qui est très atmosphérique et qui parle de la mélancolie automnale, et qui peut être que moi j'attends avec impatience chaque année, un peu comme le réveillon de Noël. Je suis très contente quand l'automne arrive parce que ça me permet d'avoir un cadre parfait pour me laisser aller à des sentiments de contemplation et de, enfin, en tout cas pour moi l'automne c'est un moment où les choses rentrent en elles-mêmes, et ça fait partie vraiment des trucs que j'attends. C'est toujours un moment où je me sens globalement bien et où j'ai l'impression d'être à la maison. En plus, je suis née en automne, je pense que ça joue, j'aimerais bien te dire qu'il y a une histoire hyper ésotérique derrière ces paroles-là, mais c'est une chanson qui parle vraiment de la nature en automne et de ce cadre qui, moi, m'émeut en fait toujours chaque année autant, quoi.
Eh bien, merci beaucoup Léa.
Merci
à
toi.
Et puis, à très bientôt, j'espère.
Ouais, ça marche.
Assoupi derrière toi, dans mille d'arbres qui portaient ton nom, comme une arme, ces plaines ont le goût d'autres semaines, d'autres mois, des visages éclatés. C'est un...